Alors, les élections en France ont été le sujet d'un dossier dans le numéro de À l'encontre, le numéro 6, et ont aussi donné lieu à la production de divers documents sur le site web, sur le site internet de la revue mensuelle À l'encontre, qui publie les prises de position du mouvement pour le socialisme. Dans le cadre de cette brève intervention, nous voudrions souligner quelques points ayant trait aux résultats et aux conséquences des élections en France. Tout d'abord, on ne souligne peut-être pas assez la chute du Parti communiste, qui n'est pas une chute simplement électorale. Le Parti communiste fait 3%, mais cela traduit une perte de lien organique avec les salariés, avec les travailleurs, et le fait aussi qu'un secteur de militants syndicaux, d'ouvriers entrant en lutte, n'ont plus des rapports de confiance politique avec ce parti stalinien qui s'est largement social-démocratisé. Deuxièmement, le Parti socialiste et le gouvernement Jospin, car on ne peut séparer gouvernement et Parti socialiste, comme d'ailleurs pour le Parti communiste, le Parti socialiste voit, lui, ses liens avec les secteurs salariés, dans toutes les analyses sociologiques, se distendre. Il a voulu jouer la carte des dites classes moyennes, des classes moyennes qui aujourd'hui, pour autant qu'elles existent, c'est-à-dire des salariés stables, qui sont de plus en plus déstabilisés et qui ne se sont pas reconnus de loin dans la politique du gouvernement Jospin et du Parti socialiste. Et dans les programmes de ce gouvernement Jospin et du Parti socialiste, programmes tout à fait similaires ou largement analogues avec les programmes de la droite. Enfin, il y a le résultat cumulé de lutte ouvrière et de la Ligue communiste révolutionnaire qui font 10%, un peu plus, et qui signifie aujourd'hui la recherche par de nombreux secteurs encore difficiles à identifier exactement d'une alternative au sens d'une voie de sortie de ce système vers un système globalement socialiste, c'est-à-dire où les gens puissent prendre en main leur futur, voir le bout de leurs actes, développer droits sociaux dans l'entreprise, droits syndicaux et surtout pouvoir opter sur les grands choix sociaux, économiques et politiques de la société à l'échelle française et plus globalement à l'échelle européenne. Le dernier élément a à voir avec le vote Le Pen. Et ici, le second tour a été polarisé par la question de Le Pen. Il faut, je crois, insister sur un point. Indiscutablement, il existe une sorte d'oligarchie politico-médiatique qui crée l'événement politique central, voter contre Le Pen. Il est absolument extraordinaire de voir la première de Paris Match, tous ensemble contre Le Pen, et des affiches de l'extrême gauche, que ce soit en Suisse ou ailleurs, tous ensemble contre Le Pen. Bien. Il y a donc un véritable problème, tous ensemble avec qui? Tous ensemble avec le représentant du patronat français, du MEDES, c'est-à-dire Jacques Chirac. Ça, c'est le message que l'on a voulu faire passer au second tour, c'est-à-dire on a créé une polarisation qui va, on le verra, mettre en relief la question d'une unité nationale au moment où la crise sociale, économique et politique s'approfondit en Europe. Et je pense qu'il y a dans cette opération politico-médiatique, il y a une véritable vision d'un type de démocratie. Les médias, les sondeurs, les partis politiques qui utilisent de plus en plus les sondages mettent un signe d'égalité entre sondage et démocratie. Et ce n'est pas un hasard. Parce que cela efface tout les questions centrales, qui détient le pouvoir, qui décide, quelles sont les véritables césures sociales dans la société, quels sont les problèmes sociaux qui font bouger la société, comment les classes sociales, les secteurs sociaux peuvent agir et agissent pour modifier la situation de leur vie quotidienne, et avec cette création d'un horizon artificiel, d'un combat décisif entre Chirac et Le Pen, on a conduit de larges secteurs de la gauche, quelles que soient leurs intentions, à donner un blanc-seing au patron du MEDEF, au patron politique, au représentant politique du MEDEF, c'est-à-dire à Chirac et à son bras droit, Ernest-Antoine Seilière. Il y a évidemment à comprendre l'identité de ce vote lepéniste. Et je crois qu'un problème est peu souligné. Les couches, tout d'abord, qui ont voté Le Pen, ont peu à voir avec un transfert des voix PC vers Le Pen. Les études aujourd'hui le montrent, c'est un cliché utilisé par la presse en termes de voix comparées à 95, cela est tout à fait limité. En réalité, c'est l'abstention qui a été énorme et c'est la non-inscription de la part de courants jeunes défavorisés des banlieues ayant le droit de vote qui sont deux phénomènes importants. Quant à Le Pen et à cette clientèle électorale relativement stabilisée de Le Pen, je crois qu'elle reflète deux dimensions tout à fait contradictoires. La première a trait à ce que j'appellerais l'acceptation, l'intégration de ces idées néoconservatrices sur l'inégalité, les races différentes, etc. L'idéologie néoconservatrice a stimulé l'inégalité sociale et l'expression la plus superficielle de cela et en même temps la plus profonde, c'est l'inégalité entre ethnies, entre guillemets, races, etc. Donc on utilise bien, et on a intégré dans des couches populaires comme quelque chose de naturel, ce qui est présenté par l'idéologie dominante comme naturel, c'est-à-dire l'inégalité dans un système capitaliste hyper concurrentiel que l'on appelle néolibéral. Ça, c'est une intégration de cette idéologie dominante qui s'exprime par un vote Le Pen et qui exprime des frustrations par un vote Le Pen. Mais en même temps, il y a une sorte de réflexe contre ces couches qui se ressemblent, contre des Strauss-Kahn et des Juppé qui sont des frères jumeaux, contre des Jospin et des Douce de Blasi qui sont des frères jumeaux politiques dont on ne peut pas faire la différence, dont il est impossible, comme disait l'hebdomadaire de la City anglaise, The Economist, de faire la différence entre programmes, on se vole les programmes entre droite et gauche, entre guillemets, et il y a contre cette, je dirais, élite politique qui vit dans un monde séparé de l'essentiel des salariés et des travailleurs, il y a un vote lepéniste contre cette élite. Là, il y a une dimension protestataire, contradictoire, sur le fond, avec, évidemment, l'intégration et la stabilisation d'une généalogie réactionnaire stimulée dans sa dimension la plus terrifiante par Le Pen, mais qui puise Le Pen non seulement dans son programme économique, qui puise dans l'idéologie de l'inégalité et du racisme, qui est une vieille idéologie impérialiste et antérieurement colonialiste. Maintenant, lorsque l'on a vu cela, il s'agit, je crois, de comprendre quel est l'enjeu dans les mois à venir. Et l'enjeu dans les mois à venir, c'est en quoi la gauche va rester prisonnière de la contrainte, pour ne pas dire de l'étreinte, de l'unité nationale. La droite a véritablement créé, avec cette campagne unitaire pour Chirac, un cadre idéologique dans lequel elle va essayer de maintenir la gauche, entre guillemets, la gauche traditionnelle, PS, PC, qui ne représente véritablement plus les intérêts des salariés, des hommes et des femmes qui travaillent. Cette droite va aujourd'hui utiliser la situation des législatives pour renforcer cette étreinte d'unité nationale. Comme il y aura un grand nombre de triangulaires, c'est-à-dire après le premier tour des législatives, on va trouver des positions suivantes, un élu en premier rang RPR ou UDF, un deuxième PS et un troisième lepéniste. Dans ces cas-là, la droite va essayer de faire pression sur la gauche institutionnelle pour qu'elle se retire, qu'elle prolonge au plan des législatives l'opération d'unité nationale opérée à l'occasion de Chirac. Et cette gauche institutionnelle va, comme une courroie de transmission, opérer une pression sur l'extrême gauche. Et il est significatif que la campagne des médias aujourd'hui stigmatise avant tout lutte ouvrière qui a eu, je crois, le bon sens et le courage de demander un vote actif, nul et blanc, pour ne pas dire votons contre Le Pen, c'est-à-dire votons Chirac, et demain manifestons dans la rue, luttons contre le MEDEF, luttons contre le patronat, après avoir élu son représentant politique. Je pense que la façon dont les médias stigmatisent lutte ouvrière est non pas le signe que lutte ouvrière s'est trompée en l'occurrence, mais que la droite comprend bien que la résistance sociale, la volatilité sociale, les couches qui sont descendues dans la rue voulaient autre chose que simplement le vote Chirac. Et pour preuve, la manifestation à la Bastille de la gauche a été très restreinte et à la place de la République, à Paris, la manifestation était aussi restreinte et peu de gens de droite étaient présents. Par contre, et on peut fort bien le comprendre, il y avait beaucoup, ou relativement, parce qu'il y avait 7 ou 8 000 personnes représentant des couches immigrées, etc., qui effectivement, et on les comprend fort bien, ont été soulagées par le fait que Le Pen n'ait pas été élu, mais cela était joué d'avance. Personne ne pouvait penser véritablement que Le Pen dépasse les 18 à 20%. On a créé l'événement pour créer l'unité nationale. Aujourd'hui, je crois que si l'on essaye de réfléchir à long terme, on est dans une phase de fin, une phase historique de fin du mouvement ouvrier traditionnel, depuis une quinzaine d'années, de déclin du mouvement ouvrier traditionnel social-démocrate, stalinien, social-démocratisé, d'un affaiblissement des syndicats, et que pour la gauche radicale, pour les couches combatives, syndicalistes et politiques, il s'agit d'envisager deux éléments. D'une part, que les contre-réformes néoconservatrices, qui ont pour but de faire reculer l'ensemble des systèmes de sécurité sociale, des systèmes de législation du travail, des systèmes de droits syndicaux, des possibilités de pousser effectivement la droite dans ses retranchements par l'action directe et la mobilisation, que ces réformes néoconservatrices vont continuer et que il s'agit de pouvoir traduire en termes d'une part de résistance et d'autre part de perspective le refus de la majorité de la population européenne pour l'heure à ces contre-réformes. Et cela nous conduit à la conclusion, le combat contre Le Pen implique en réalité une discussion à l'échelle européenne pour un véritable programme d'urgence sociale, politique, économique, féministe, intégrant la dimension de l'environnement comme une dimension liée à la propriété privée et au droit de piller les ressources naturelles comme on use les entre guillemets ressources humaines, d'avoir un tel programme pour le proposer dans une perspective d'États-Unis socialistes d'Europe. Il faut intégrer les combats nationaux aujourd'hui dans cette perspective. C'est ce que Gênes nous a appris, mais c'est aussi ce que nous apprennent de façon simultanée les batailles syndicales en Allemagne, les batailles syndicales et politiques en Italie, la disponibilité à la mobilisation de secteurs entiers de salariés en France et aussi en Suisse, le réveil qu'il y a de couches de salariés qui se demandent qui les représente, qui peut travailler avec eux, qui peut converger avec une série de revendications. Et de ce point de vue, il sera difficile pour des jeunes, des travailleuses, des travailleurs, des salariés de se reconnaître soit dans la social-démocratie, soit dans des partis multipliant une démagogie entre guillemets de gauche, en réalité une démagogie populiste sans contenu. Il est l'heure de raisonner, il est l'heure de travailler, de collaborer à l'échelle nationale et européenne pour un véritable mouvement pour le socialisme.